6h57 sur Europe 1, un très bon réveil, très bonne journée. On se retrouve demain, je vous retrouve demain pour démarrer la journée à 5h avec les premières infos. Je vous laisse en compagnie de Mathieu Béliard pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1, lundi 7 décembre 2020. Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. La journée mondiale pour le climat demain et cette semaine, le 5e anniversaire de l'accord de Paris. C'est à la une aujourd'hui. Barbara Pompili est l'invitée de Sonia Mabrouk. L'engagement, la cause écologique sont-ils moins urgents aujourd'hui au regard de cette crise que nous traversons? Où en est la France de ses engagements de la COP21 et des engagements du président de la République auprès de la Convention citoyenne pour le climat? Le ton monte, rénovation thermique, pollution automobile, publicité pour les produits polluants. La ministre de la Transition écologique et solidaire, invitée politique d'Europe Matin, c'est à 8h15. C'est un des dossiers chauds sur le bureau du président de la République cette semaine. Un dossier de plus, la loi séparatisme présentée en Conseil des ministres mercredi. Pour Nicolas Bétou, c'est une semaine test qui démarre. Pour la majorité, les derniers ajustements, les informations du service politique ce matin. La loi sécurité et la violence des manifestations du week-end ce matin. Nous allons interroger ces colères, ces ressentiments, guérir du ressentiment. C'est le projet de la philosophe, psychanalyste Cynthia Fleury qui publie « Sigille la mer » chez Gallimard. La contestation, les colères, donc réflexion sur l'individualisme aussi pour Cynthia Fleury. Les ferments du complotisme ambiant. Cynthia Fleury, 7h40, le tête-à-tête Europe Matin. Puis à la une également, le front de la vaccination. Semaine majeure sur ce terrain, fantasme et réalité autour des effets secondaires du vaccin. Il y en a, il s'agit de les expliquer, de les comprendre, de faire la part des choses. Nous sommes à Londres. Les Anglais démarrent la campagne dès demain sur les publics prioritaires. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles aussi, d'où nous surveillons les dernières négociations sur l'accord commercial qui accompagne le Brexit. Le compte à rebours, vous ne manquerez rien des dernières discussions de cette nuit. Hein, c'est sur Europe 1. Voici quelques éléments du programme. 6h59, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Coucou Mathieu. Nous allons vivre une semaine plutôt hivernale. Hein. Hivernale qu'automnale, oui. Ça ne s'annonce pas très bien côté température. En ce moment, entre moins 4 et plus 4 degrés. Il en fait moins 1 en région parisienne, 2 à Lyon, vous voyez que ce n'est pas énorme. Et la pluie est arrivée par l'Atlantique, elle est arrivée par le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée, 3 départements, mais aussi le Poitou-Charentes sera touché, le Limousin, tout le sud-ouest, et en particulier les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Voilà pour la pluie. Si vous habitez la Normandie, la Picardie, la région parisienne, l'Orléanais, la région Rhône-Alpes et la Côte d'Azur, ce sont des brouillards, attention, ils sont parfois givrants, notamment en Ile-de-France, et ensuite un brin de soleil, mais un tout petit brin. En Normandie maintenant, en Champagne-Ardenne, pardon, Lorraine-Alsace, Pays Basque et la Corse, ce sera un temps gris, humide et brouillasseux. Bon, pas terrible, température 6 à 12 degrés.
On a compris qu'on gardait le pull pour la semaine en tout cas. Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer. Il est 7h.
Si on laisse passer l'idée que ce sont les pays étrangers qui financent les lieux de culte, eh bien, les religions sont sous l'influence de ces mêmes pays étrangers.
Pas question pour le maire de Montpellier de laisser le Maroc racheter la grande mosquée de la ville. Il va la préempter, cas d'école à 2 jours du projet de loi contre les séparatismes. La vaccination pour les personnes les plus fragiles, ça commence demain en Grande-Bretagne. En France, les autorités sanitaires veulent rassurer les seniors qui ont peur de servir de cobayes. Bras de fer et dialogue de sourds entre d'un côté le groupe Pierre et Vacances et de l'autre des propriétaires de Cottage Center Park qui n'ont pas reçu leur loyer pendant le premier confinement. Aujourd'hui, les compensations ne leur conviennent pas.
Je pense que c'est un marché de dupes et surtout dans l'avenant qu'il propose, il y a une clause qui dit qu'on renonce à tout recours. Donc moi je l'ai lu, j'ai dit ça, je signe pas. J'ai halluciné quoi, quand même. Je trouve vraiment pas ça correct.
Un dossier à suivre dans ce journal. Nous parlerons aussi des droits télé du foot. Mediapro n'a pas payé son échéance de décembre à la Ligue et pour certains clubs c'est la catastrophe. Et puis esprit de Noël, es-tu là ? Pas toujours évident de le maintenir en période de pandémie. Pas de marché à Strasbourg. En recherchant bien, on en trouve quand même dans les environs.
Juste après ce journal, les pêcheurs, otages de la négociation sur le Brexit, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette. Le 15 de France a perdu face aux Anglais, mais les Bleus ont beaucoup gagné hier. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ne l'appelez plus loi sur les séparatismes, mais loi confortant les principes républicains. Elle sera présentée mercredi en Conseil des ministres et prévoit notamment d'empêcher l'influence des pays étrangers sur l'islam en France. Ça, c'est pour la théorie. Oui. Voilà justement un cas pratique.
Concrètement, on va être très concret. Écoutez, la ville de Montpellier s'oppose à la vente au Maroc de la grande mosquée de la Paillade. Le maire va exercer son droit de préemption. Les explications d'Hélène Terzian.
C'est au détour d'un simple document administratif que la mairie s'est rendue compte du projet. L'association à la tête de la plus grande mosquée de Montpellier veut vendre la salle de prière au Maroc. Une cession pour 1 euro symbolique que le maire, Michael Delafosse, refuse catégoriquement. Il va d'ailleurs préempter les lieux pour éviter la vente.
Si on laisse passer l'idée que ce sont les pays étrangers qui financent les lieux de culte, eh bien les religions sont sous l'influence de ces mêmes pays étrangers. Et donc, moi je le dis clairement, c'est non. Il appartient aux fidèles montpelliérains de prendre en charge leur mosquée conformément à la loi de 1905.
Les fidèles avaient justement aidé à l'époque à acheter la salle de prière à la mairie pour 1 200 000 euros. Mais aujourd'hui, l'association locale n'a plus les moyens de l'entretenir et de financer son agrandissement. Voilà pourquoi elle a sollicité le Maroc. L'Union des mosquées de France proche du Royaume explique que le pays n'a pas donné suite à cette demande. L'opposition de la mairie devrait probablement faire avorter le projet.
Et également dans le projet de loi qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres, l'instruction à domicile. Il s'agit de lutter contre les dérives communautaristes, mais selon les informations d'Europe 1, le gouvernement devrait lâcher du lest et prévoir des exceptions pour les enfants malades, les sportifs ou encore ceux qui ont un projet pédagogique spécifique.
Des voitures brûlées, des magasins, des banques aux vitrines brisées. Image impressionnante des violences et des dégradations samedi lors des manifestations contre la loi sécurité globale à Paris en particulier.
Et sur cette question de la sécurité, l'opposition a tiré à boulets rouges sur le gouvernement. Le sénateur LR Bruno Retailleau a notamment critiqué l'incapacité du pouvoir à assurer l'ordre dans notre pays. En fait, l'exécutif, Jean-Rémy Baudot, il tente de trouver la bonne riposte.
Oui, et preuve que le sujet est pris au sérieux, il était au cœur d'une réunion hier à Matignon. Selon nos informations, ce rendez-vous n'était pas inscrit à l'agenda du Premier ministre. Mais Jean Castex a reçu Gérald Darmanin pour parler, en plus de la loi séparatisme, de la question des manifestations violentes. Le gouvernement observe la présence désormais quasi systématique de Black Bloc. Et comme le fait remarquer un conseiller Place Beauvau, que notre réponse soit musclée ou pas, ça part toujours en vrille. Fin de citation. Pour l'exécutif, les réponses ne sont pas simples. Le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi anti-casseurs votée après les Gilets jaunes et la fouille des manifestants n'a jamais réellement montré son efficacité. On ne peut pas empêcher la présence d'anarchistes violents, se désole un proche du président. Alors en attendant de trouver la parade, le gouvernement se rassure en décryptant les chiffres des mobilisations. Ils étaient en baisse samedi et certains notent que les revendications restent isolées. Un embrasement populaire issu d'une convergence des luttes n'est pas le scénario privilégié pour le moment.
Merci Jean-Rémy Baudot. Et selon le bilan définitif donné hier par Gérald Darmanin, 95 personnes ont été arrêtées. On compte 67 blessés parmi les forces de l'ordre, dont 48 à Paris.
7h05 sur Europe 1, la Grande-Bretagne va jouer les précurseurs en Europe avec le lancement demain de sa campagne de vaccination. Elle visera les personnes les plus vulnérables.
Et d'ailleurs, si on en croit la presse britannique, la reine, 94 ans, et son mari, 99 ans, feront partie des premiers vaccinés. En France, ce sont aussi les personnes les plus fragiles qui seront concernées dès janvier prochain, les pensionnaires des EHPAD, des seniors et leurs familles qui ont parfois des réticences, pas envie de jouer les cobayes. Écoutez la réponse de Marie-Paul Kieny, présidente du comité scientifique vaccin Covid-19. Elle est également directrice de recherche à l'INSERM.
Pourquoi est-ce qu'on propose de vacciner d'abord les personnes dans les EHPAD? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on sait que ce sont les personnes les plus vulnérables et on a vu la mortalité extrême qu'il y a eu dans les EHPAD pendant la première, la deuxième vague. Et donc, on veut essayer autant que possible de protéger ces personnes très âgées. À l'heure actuelle, ce qu'on sait de ce vaccin, de ces vaccins qui sont en cours de développement, c'est qu'ils n'ont pas donné lieu à des effets nocifs importants. Et donc, on pense pouvoir vacciner autant qu'on le sache actuellement, en toute sécurité, les personnes qui sont vulnérables en raison de leur âge.
La présidente du comité scientifique sur le vaccin, invitée de Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Un peu plus de 11 000 cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures. On est donc très au-dessus de l'objectif édicté par Emmanuel Macron. Il avait évoqué 5 000 cas quotidiens pour pouvoir lever les mesures de confinement au 15 décembre.
On va maintenant s'intéresser à cette bataille judiciaire qui a des allures de pot de terre contre le pot de fer. D'un côté, des propriétaires d'appartements ou de cottages et de l'autre, de gros groupes comme Pierre et Vacances.
Un dossier qu'on va ouvrir avec vous ce matin, Gianne Bergaoui. Bonjour.
Bonjour.
Ces géants du tourisme refusent de payer les loyers du premier confinement à leurs investisseurs. Leur justification, la pandémie les a obligés à fermer les villages vacances, style Center Park. C'est un cas de force majeure, voilà. Alors, ça concerne d'abord combien de personnes ?
Eh bien, ça concerne 20 000 particuliers. Je vous donne un exemple. Alexis, père de famille, il a acheté en 2011 un cottage Center Parks au cœur de la Sologne au prix de 255 000 euros. Le principe, pendant 9 ans, Pierre et Vacances lui versent un loyer garanti, quoi qu'il arrive, tous les mois. Sauf qu'en juin, surprise, Alexis reçoit un courrier du groupe qui refuse de payer toute la durée du confinement. Ça représente 2600 euros de manque à gagner.
Ma banque a accepté de suspendre mon prêt, mais pendant 6 mois. Donc ça veut dire que j'ai un décalage maintenant sur mon emprunt. Au niveau trésorerie, j'ai réussi à gérer l'affaire, mais on n'est pas à l'abri d'avoir à nouveau des impayés. C'est une décision complètement unilatérale qui nous semble un petit peu, même beaucoup abusive.
Décision abusive selon ce propriétaire. Que répond le groupe Pierre et Vacances ?
Cas de force majeure, c'est ce qui lui permet juridiquement de ne plus payer ses loyers. Le groupe estime que c'est une question de survie. Le confinement lui a fait perdre plus de 300 millions d'euros. Et c'est ce que m'explique Dominique Ménigo, c'est le responsable des relations de Pierre et Vacances avec les propriétaires individuels.
La fermeture nous a été totalement contrainte. Ce chiffre d'affaires, il a été perdu et il ne sera pas rattrapé. Les appartements et les cottages sont devenus, et c'est là qu'il y a un aspect juridique, indisponibles à leur destination touristique. Ça a eu un effet immédiat de suspendre les effets du bail, en premier lieu le versement des loyers. Maintenant, on a présenté 2 compensations à l'ensemble de nos propriétaires.
Alors la première, c'est un pari sur l'avenir. Si le chiffre d'affaires de l'année prochaine est supérieur à celui de l'an dernier, eh bien la différence serait alors partagée entre le groupe et les propriétaires. La deuxième, c'est une prolongation de bail. Mais à ce stade, seule la moitié des propriétaires ont accepté cette proposition. 10 000 refusent encore de la signer. C'est le cas de Patrick qui assigne le groupe en justice.
Moi, je pense que c'est un marché de dupes. Et surtout, dans l'avenant qu'il propose, il y a une clause qui dit qu'on renonce à tout recours. Donc moi, je l'ai lu, j'ai dit ça, je signe pas. J'ai halluciné, quoi, quand même. Je trouve vraiment pas ça correct.
Alors, Patrick ne signe pas. Plusieurs milliers de plaintes en vue chez Pierre et Vacances, Jeanne, et chez les autres grands groupes du secteur, comment ça se passe ?
Eh bien, c'est quasiment la même chose partout. Près de 2000 plaignants chez Odalis, 500 chez Lagrange, plusieurs dizaines chez Bellambra. Et chaque fois, nous dit-on, ces spécialistes des résidences de tourisme se montrent inflexibles dans les négociations. Tout ça devrait donc se finir devant la justice.
Merci Jeanne Bergaoui, un dossier Europe 1 réalisé avec Théo Manval. On va maintenant parler football, mais pas sur les terrains. Cette très délicate affaire des droits télé qui plongent les clubs dans le rouge.
Comme on le craignait, Mediapro n'a pas payé son échéance de décembre à la Ligue, soit environ 150 millions d'euros. Le groupe sino-espagnol se retranche derrière la conciliation juridique en cours, dont on attend les résultats dans les 48 heures. Cette semaine, Jean-François Pérez s'annonce capital pour l'avenir du foot pro. Certains clubs sont au bord du gouffre.
Oui, depuis le mois d'octobre et un premier défaut de règlement, la confiance est rompue entre le mauvais payeur, Mediapro, et la Ligue de football professionnel. Dès ce matin, le collège des présidents de Ligue 1 se réunit, la révolte gronde et s'organise. Les clubs les plus fragiles, déjà très endettés, ne pourront bientôt plus verser de salaire, ce qui n'empêche pas Mediapro de continuer à diffuser les matchs, comme si de rien n'était. Dans une ambiance devenue polaire, la Ligue espère désormais une solution radicale, un retrait pur et simple de Mediapro, une fois les arriérés versés, environ 330 millions, et le retour en force du duo Canal+, beIN Sport, tout en ayant conscience, vu le contexte, que le rêve du milliard d'euros par saison est devenu une utopie. Adieu le luxe, il faut maintenant négocier pied à pied et sauver les meubles. Les droits TV représentent plus de la majorité des revenus des clubs.
Jean-François Pérez est en Ligue 1. Lyon a enchaîné hier soir une 4e victoire face à Metz 3-1 et se classe désormais en 3e position de la Ligue 1 derrière le PSG et Lille.
Et Noël, dans un tout petit peu plus de 2 semaines, et en ce moment, on a tous envie de féerie, de magie, n'est-ce pas Hélène ?
Ah oui.
C'est particulièrement le cas en Alsace, où Strasbourg a dû renoncer à son merveilleux et si célèbre marché de Noël.
Et oui, 300 chalets supprimés. En revanche, d'autres villages s'appliquent à perpétuer la tradition. Arthur Elmbaché, la question est simple. Esprit de Noël, es-tu là ?
Alors la réponse est oui. La preuve.
Les décorations sont super jolies, les sapins ils sont super décorés, ouais, c'est vrai. Vraiment super beau.
15 chalets de Noël par exemple ici à Haguenau où il manque, c'est vrai, comme partout dans la région, un petit quelque chose.
Bah on cherche justement.
Vous cherchez le vin chaud ? Je crains que...
Il n'y en a pas ?
Pas de vin chaud cette année.
D'habitude j'ai une grosse marmite, bon cette année c'est pas possible.
La viticultrice Martine Motz a la solution.
Alors j'ai refait ma recette chez moi et je vous propose d'emporter votre bouteille. Et donc à ce moment-là vous le réchauffez. chauffer, surtout pas au micro-ondes, doucement dans une petite casserole.
À cause du virus, Strasbourg a donc renoncé et la préfète déteste que les communes utilisent l'expression « marché de Noël ».
Bienvenue au marché de Noël sur la place du Général de Gaulle à Saverne.
Stéphane Leyenberger, le maire de Saverne.
Derrière l'expression « marché de Noël », il faut voir ce que c'est. On n'est pas non plus les mêmes contraintes que dans la grande ville qu'est Strasbourg. Donc nous, on avait dit qu'on peut se permettre jusqu'au dernier moment de nous adapter. Il faut aussi que les petites villes aient des avantages de temps en temps.
Il faut savoir que le Père Noël lui-même a promis de respecter, pour les photos avec les petits Savernois, les gestes barrières.
Arthur Elmbaché, moi je veux bien rapporter un peu de vin chaud à la maison.
J'allais vous poser la question, vous êtes cliente du vin chaud.
Avec la petite musique derrière, c'est
parfait. On peut faire ça ici, la rédaction. On va organiser ça. Merci Hélène Zélène. Nicolas Barret, le vin chaud, non vous
ah, au petit déjeuner.
Au petit déjeuner, bien sûr. Merci beaucoup. Hélène, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La contestation des décisions prises, la contestation de l'autorité aussi, les images de casse même après les manifestations du week-end. La philosophe Cynthia Fleury travaille sur cette amertume, sur ces colères, un ressentiment que l'on retrouve aux racines du complotisme selon elle. Réflexion avec Cynthia Fleury à 7h40, l'invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barret, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Y aura-t-il enfin un accord sur le Brexit? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'entretiendra ce soir avec Boris Johnson. Les pêcheurs sont au cœur de cet ultime bras de fer.
Oui, vous savez, ça fait 4 ans et demi que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit par référendum, avec d'ailleurs un peu plus d'un million de voix d'écart. Ça fait 4 ans et demi qu'ils essayent de diviser les Européens pour négocier un accord commercial qui leur soit favorable. Et ça fait 4 ans et demi qu'ils savent qu'à la fin, dans les derniers jours, dans les dernières heures, le sujet qui peut tout bloquer, c'est la pêche. La pêche, c'est un petit sujet économique, 0,1% du PIB, mais très gros sujet politique des deux côtés de la Manche, un sujet sur lequel la France, mais pas seulement elle, la Belgique, l'Espagne, sans doute les Pays-Bas et d'autres, sont prêts à mettre leur veto si l'accord ne les satisfait pas.
Il faut dire que nos pêcheurs ont beaucoup à y perdre.
Oui, les pêcheurs français, belges, néerlandais, etc. Oui, parce que depuis l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne en 73, eh bien ça leur a donné petit à petit accès aux eaux britanniques qui sont extrêmement poissonneuses. 30% des prises françaises s'effectuent dans ces eaux. Ça représente même jusqu'à 90% des débarquements dans le port de Lorient. Les Espagnols et les Portugais, très gros pêcheurs, écument les eaux britanniques, notamment au nord de l'Écosse, des zones vitales pour eux. L'Espagne d'ailleurs compte 100 000 pêcheurs. Tous ces pays disposent de quotas de pêche et cette concurrence dans les eaux britanniques a divisé par deux le nombre de pêcheurs au Royaume-Uni depuis qu'il fait partie de l'Europe. C'est d'ailleurs pourquoi les pêcheurs outre-Manche sont presque tous pour le Brexit. Pour eux, l'Europe, c'est simple, c'est la ruine.
Oui, enfin, ce qui n'est pas tout à fait exact non plus.
Non, parce qu'une grande partie des prises des chalutiers européens dans les eaux britanniques, environ 40%, est transformée au Royaume-Uni. Ça fait donc vivre toute une filière industrielle et les 3/4 de ces produits transformés, conditionnés, surgelés, mis en conserve, etc., sont exportés vers l'Union européenne. Voilà pourquoi les deux rives de la Manche ont intérêt à s'entendre. Nous, pour continuer à pêcher dans ces eaux très poissonneuses et eux, pour continuer à nous vendre leurs produits sans subir de droits de douane. Mais en votant pour le Brexit, les pêcheurs britanniques ont voulu récupérer leur souveraineté sur ces eaux. Londres voudrait que les droits de pêche soient négociés tous les ans. Inacceptable pour les Européens. Comment voulez-vous programmer vos investissements et entretenir votre flotte avec une telle incertitude? Les Européens demandent au moins 10 ans de visibilité. On en est là. Deal ou no deal, la partie se joue largement en mer.
Merci beaucoup Nicolas Barret. Il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Les élections législatives ont eu lieu hier au Venezuela.
Oui, et pas besoin d'attendre le dépouillement. Nicolas Maduro ne peut pas perdre. Il a trouvé la pierre philosophale qui transforme la débâcle générale en triomphe personnel. L'élection truquée qui ne mobilise que sa clientèle. Évidemment, l'opposition boycotte le cirque, mais qu'importe à Maduro? Il a été ainsi réélu président en 2018, il a fait élire une assemblée constituante pour gouverner à sa guise, et demain, les nouveaux députés vont expulser les opposants qui campaient impuissants au Parlement. Alors l'étranger s'indigne, mais l'étranger de plus en plus loin de Caracas.
L'Europe, les Amériques ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président légitime.
Ça n'a absolument rien changé. Le Venezuela a continué à s'enfoncer. C'était un émirat pétrolier. C'est un pays menacé par la famine, selon les Nations Unies, comme le Yémen ou le Soudan du Sud. Le seuil de pauvreté, c'est $1 par jour. Le retraité vénézuélien touche $1 par mois. La faute à l'hyperinflation, 9000% l'an dernier, et à la récession qui dure depuis l'arrivée de Maduro au pouvoir. Et pour encaisser sa pension d'un dollar par mois, le retraité doit attendre des jours devant la banque, sous le cagnard. Partout, il y a des files d'attente. Il faut entre 20 et 25 heures pour faire le plein à Caracas. Imaginez l'épuisement du Vénézuélien. Au moins 5 millions ont fui à l'étranger.
Et dans le même temps, pour enrayer l'épidémie de Covid, le régime impose le confinement.
Alors on s'attendait au pire. Comment se laver les mains quand il y a de l'eau courante une heure par jour et même pas de savon à l'hôpital? Chiffre officiel, 100 000 contaminations, 1000 morts. Rien à côté des pays voisins. Le Venezuela manque de tout et même de virus. Évidemment, personne n'y croit, tout le monde s'en fiche. Il y a pire que le Covid, il y a par exemple l'hélicoïde. C'est le nom du centre commercial où les services de renseignement ont installé leur siège et leur prison. La mission de l'ONU a accusé Maduro de crimes contre l'humanité il y a 2 mois. La Cour pénale internationale enquête. Les Américains ont inculpé Maduro pour narcoterrorisme. Peu lui importe, puisque ce matin, il gagne les élections.
Merci Vincent Hervouet, il est 7h19. Et à suivre, après un match héroïque, le 15 de France a perdu face aux Anglais. Malgré la défaite pour Virginie Fulpin, beaucoup de promesses dans cette équipe de France. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'Angleterre a remporté hier après-midi la Coupe d'automne de rugby avec sa victoire 22-19 après prolongation contre le 15 de France. Mais après ce match, pour vous Virginie, ce sont les Bleus qui ont gagné.
Le 15 de France est passé à quoi, 20 secondes d'une victoire aussi inattendue qu'héroïque, mais ce sont bien les Bleus, oui, qui ont honoré ce rendez-vous. Vous les avez vus pérorer, vous, les Anglais, au coup de sifflet final? Ça ressemblait plus à un immense soulagement après être passé à 2 doigts de jouer les dindons de la farce. Oui, vous savez, la farce, la mascarade, les mots doux avec lesquels la presse anglaise parlait de ce match quand elle a découvert que les Français alignés seraient des petits jeunes en manque de repères à ce niveau-là. Alors la seule question que se posaient les Anglais hier matin, c'était quelle ampleur aurait la déculottée qu'ils allaient infliger aux Bleus. C'est marrant de toujours pas avoir compris que dans ces rencontres entre rivaux ancestraux, piquer l'adversaire dans sa fierté, c'est le meilleur moyen de démultiplier ses forces. Ils l'avaient déjà fait avant le tournoi des Six Nations. Ils s'en sont mordus les doigts. Là, ils ont bêtement recommencé et ils sont passés tout près de la même punition. Alors je sais bien, passer tout près en sport, ça veut rien dire. Mais quand vous êtes vice-champion du monde, que vous êtes tellement sûr de vos forces, que vous avez du mal à trouver des idées nouvelles sur le terrain, gagner petitement au bout de la prolongation, j'appelle ça une défaite anglaise.
Alors ça ne peut pas être que la fierté et l'orgueil qui ont fait avancer les Français dans ce match.
Ces petits bleus ont tous eu la même réaction à la fin de ce crunch. Il n'y a pas d'équipe de France B ou C, il n'y a qu'un 15 de France. Alors ça prouve 2 choses. Oui, ça les a touchés au cœur, ces moqueries d'avant-match, et ils ont su réagir à l'unisson avec une vraie solidarité. Mais ça prouve aussi que Fabien Galthié a réussi en quelques mois à construire un groupe, pas juste 15 joueurs capables de battre les meilleurs, mais un groupe entier qui assimile ensemble ce que le sélectionneur met en place, un style de jeu commun à tous. Avec notamment une défense de fer. On l'a vu avec les titulaires habituels, on l'a revu hier. N'oublions pas non plus que ces jeunes pousses ne sortent pas de nulle part. Ils ont gagné 2 Coupes du Monde des moins de 20 ans, c'est pas un hasard. Et tout ça laisse entrevoir un avenir radieux. Ce groupe France a de l'avenir. Les Anglais l'ont aussi compris hier. Alors d'accord, le 15 de la Rose a fini par gagner, mais dans les têtes et dans les cœurs, le 15 de France a marqué beaucoup plus de points. Bon courage à Fabien Galthié pour faire des choix maintenant, mais honnêtement, ce genre de problème de riche, ça faisait quelques années qu'on rêvait d'en avoir. Alors vivement le prochain tournoi Destination.
À suivre donc. Merci Virginie Fulpin, c'était l'édito sport. Il est 7h24 et on va passer un peu de musique. Les Aristochats, mes amis, avec Stéphane Bern, que l'on retrouve ce matin pour parler d'histoire. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, l'actualité est parfois stressante, les nouvelles peuvent être déprimantes, mais fort heureusement, la musique adoucit les mœurs. C'est pourquoi ce matin, je voulais répondre à la question suivante. Pourquoi dit-on Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do?
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la gamme, à savoir une suite de notes montantes ou descendantes dans une octave.
Oh, je vois que nous avons affaire à un spécialiste. On oublie parfois que vous avez un glorieux passé dans le rock alternatif. Bref,
remontons
moins dans le solfège,
temps,
mon cher Stéphane, moins dans le solfège.
Pour nous retrouver au XIe siècle, un moine toscan, au nom de Guido d'Arezzo, imagine ses 7 notes en analysant un chant religieux, l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Les paroles de cette chanson disent « Afin que tes serviteurs puissent chanter à gorge déployée, ôte le péché de leurs lèvres souillées. » En latin, « Ut creant laxi re sonare mi ragestorum famuli », etc. Vous l'avez compris, le début de certains mots donne la gamme ré, mi, fa, etc. Et tout cela va évoluer au XVIe siècle. Anselme de Flandre, qui faisait partie de la chapelle du duc de Bavière à Munich, rajoute le si. Et au XVIIe siècle, le ut est remplacé par le do. Voilà, désolé pour ceux qui ne sont pas intéressés par la musique. Après tout, comme le disait l'homme de médias Philippe Meyer, la musique, c'est comme l'amour, il y a des heures et des endroits pour ça.
Il y a des heures et des endroits pour historiquement votre 16h Europe 1 avec oui. Mathieu Noël et Stéphane Bern.
Alors, un sujet qui va vous passionner, ils sont fâchés à mort. On réunit des personnages qui sont fâchés. Voltaire et Rousseau, Frank Sinatra et le président John Fitzgerald Kennedy et deux frères en guerre, les frères Gallagher d'Oasis, le groupe de rock à pas la boisson évidemment. Bref, on vous raconte l'histoire sans scraper le chignon tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1 avec Mathieu Noël évidemment.
A tout à l'heure Stéphane, il est 7h26. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info avec Sophie Eschen. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
De la pluie le long des côtes atlantiques, sur le Poitou-Charentes, le Limousin, dans tout le sud-ouest de la France, ce sont les régions pluvieuses aujourd'hui. Normandie, Picardie, région parisienne, Orléans et Morvan, Rhône-Alpes et Côte d'Azur, ce sont des brouillards et des éclaircies surprises, la pochette. Sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais et la Corse, un temps gris, humide et brouillasseux. Les températures maximales entre 5 et 12 degrés, c'est un temps hivernal, là y compris 5 à Dijon, 6 à Lyon, 6 à Paris, 7 à La Rochelle, 9 à Toulouse, 11 à Marseille, l'hiver jusqu'à vendredi. Ensuite, ça ira un petit peu mieux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Eschen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Les assureurs qui ont pris certaines mesures, je dis que ce n'est pas suffisant et qu'ils doivent faire davantage.
Bruno Le Maire a été clair avec les assureurs. Ou bien ils gèlent les primes d'assurance pour l'hôtellerie-restauration, ou bien ils s'exposent à une taxe pour soutenir le secteur. Les assureurs sont reçus ce matin à Bercy. Quels seront les effets secondaires des vaccins anti-Covid qui seront délivrés à partir de demain en Grande-Bretagne et début janvier en France? Entre fantasme et réalité, l'enquête dans ce journal de la rédaction d'Europe 1. Dans ce journal aussi, le cri d'alarme de Greenpeace qui dénonce des failles de sécurité sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Et puis une vente aux enchères très attendue aujourd'hui à New York, une toile de David Hockney, l'artiste vivant le plus cher du monde, qui vit en Normandie.
Juste après ce journal, la philosophe Cynthia Fleury, auteure de « Si gît la mer, guérir du ressentiment » aux éditions Gallimard, le tête-à-tête Europe Matin. Semaine test pour la majorité avec la présentation de la loi sur les séparatismes. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les assureurs vont-ils accepter de geler leurs cotisations pour les hôteliers-restaurateurs? Ils ont rendez-vous avec Bruno Le Maire aujourd'hui. Bruno Le Maire qui leur a lancé un ultimatum la semaine dernière. Le ministre de l'économie leur demande de ne pas augmenter les primes d'assurance l'année prochaine. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Alors selon vos informations, le ministre devrait obtenir gain de cause.
Effectivement, les assureurs devraient officiellement recommander à l'ensemble de la profession de ne pas augmenter les primes en 2021. Mais ça n'est pas si simple. Individuellement, des assureurs ont déjà pris cet engagement. Collectivement, toutefois, la mesure a du mal à passer, notamment auprès de ceux qui ont déjà annoncé une hausse de tarifs à leurs clients. D'ailleurs, cela ne restera qu'une recommandation que certains pourraient ne pas suivre. Dans tous les cas, il doit y avoir un geste. Pour l'image des assureurs, mais aussi parce qu'une taxe sur les assurances vient d'être votée au Sénat. Le gouvernement s'y est opposé, mais pourrait bien revenir sur sa décision lors du vote final si la réunion d'aujourd'hui tournait mal.
Et puis, on a beaucoup parlé de la création d'une assurance pandémie sur le modèle des catastrophes naturelles. Et ça, ça en est où, Carole ?
Alors là, complètement au point mort. L'idée, vous savez, ce serait qu'il y ait une prise en charge des assurances et de l'État en cas de nouvelle pandémie. Sauf que cela nécessite d'imposer une cotisation supplémentaire obligatoire pour toutes les entreprises. Or, seuls certains secteurs ont été fortement touchés par cette crise et les autres, pour le moment, ne sont pas prêts à payer pour eux.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Le Royaume-Uni lance demain la toute première campagne de vaccination.
En France, la première phase ne commencera pas avant le début de l'année prochaine, mais déjà, ces vaccins suscitent pas mal de débats et de croyances. Selon un récent sondage IFOP pour le journal du dimanche, 59% d'entre vous ne souhaitaient pas se faire vacciner, vous faire vacciner. Une réticence souvent alimentée par la crainte des effets secondaires.
Alors qu'en est-il vraiment ? On va se poser la question ce matin sur Europe 1, car oui, Victor Delande, ces effets secondaires existent.
Oui, un vaccin n'est jamais indolore. On sait par exemple que près de 40% des patients ayant reçu deux doses du vaccin Moderna lors de l'essai clinique ont ressenti une douleur modérée, de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, parfois des frissons. En revanche, sur les 40 000 personnes qui ont reçu la double injection de Pfizer ou de Moderna, aucun effet indésirable grave n'a été rapporté, ce qui est très encourageant. Pour le vaccin AstraZeneca, un cas pour le moment a été recensé sur près de 20 000 personnes vaccinées, comme l'explique Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique.
C'est une paralysie des membres inférieurs qui est transitoire, donc la personne a récupéré. Ça fait partie des accidents qu'on voit après vaccination. Ce sont des accidents rares qui surviennent en général autour de 1 pour 50 000 ou 1 pour 100 000.
Très important à signaler, la vigilance ne s'arrêtera pas le jour de la mise sur le marché des vaccins. Pendant au moins 2 ans, les contrôles seront très nombreux, les patients seront suivis avec des visites médicales régulières, une surveillance encadrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, un organisme indépendant.
Victor Delande, plus de 11 000 nouveaux cas de Covid recensés hier. La France est encore loin des 5 000 cas quotidiens fixés par le gouvernement. Condition sine qua non pour lever les mesures de confinement le 15 décembre.
La centrale nucléaire de Flamanville continue d'inquiéter les défenseurs de l'environnement, cette fois à cause d'une fuite de documents confidentiels.
Greenpeace affirme avoir reçu des fichiers très détaillés qui dévoilent tous les dispositifs de sécurité de l'EPR. L'ONG s'inquiète que de telles informations soient accessibles aussi facilement. Jean-François Julliard, le directeur général.
Il y a des plans extrêmement précis du site de Flamanville et puis il y a des spécificités techniques sur les clôtures de protection, la localisation de caméras de sécurité, des schémas de fonctionnement, des lasers de détection, des boîtes électriques, des circuits électriques. Ces documents-là, on les a eus comme ça, un peu par hasard finalement. Moi-même, je ne suis pas en mesure de savoir comment ces documents-là sont sortis de ce site de Flamanville, mais très certainement d'échanges de mails en échanges de mails, de disques durs en clé USB. Ces documents-là se sont retrouvés entre les mains d'une personne. Elle a choisi de nous les remettre, mais s'ils étaient tombés entre de mauvaises main, ces informations-là pourraient servir à une attaque malveillante, que ce soit une attaque terroriste ou quelqu'un qui voudrait dérober des matériaux radioactifs. Donc ça prouve qu'effectivement, EDF n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité d'un site aussi sensible que celui de l'EPR de Flamanville.
Et puis cette vente aux enchères, très attendue ce soir à New York, un tableau de David Hockney, peintre américain qui vit désormais en Normandie.
Un paysage de Californie que l'artiste avait vendu il y a 40 ans pour quelques dizaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, il est estimé à 35 millions, à 83 ans, Hockney est devenu l'artiste vivant le plus cher du monde. Diane Chenouda.
Cela fait quelques années que les prix s'envolent aux enchères pour David Hockney. Le record a été battu il y a 2 ans pour l'une de ses piscines, qui est partie pour 90 millions de dollars. Car Hockney est aujourd'hui mondialement reconnu comme un géant de l'art moderne. Hugues Joffre, le conseiller du président de la maison de vente Philips.
On est un petit peu dans le cadre d'un Picasso ou d'un Matisse, dont l'œuvre s'est développé pendant de nombreuses décennies et où les artistes en question ont réussi à se réinventer de manière régulière. Hockney est un petit peu un touche-à-tout comme Picasso l'était.
Et puis, on reconnaît tout de suite un tableau de Hockney, comme le confirme son marchand, Jean Frémont.
On reconnaît tout de suite ses peintures, qui fait quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui a été fait avant. Il est notamment le premier peintre important à avoir peint les paysages de la Californie. Personne avant lui n'avait peint ce genre de paysage. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui font des tableaux dont tout le monde se souvient après les avoir vus. On les oublie pas. C'est le cas des tableaux de Hockney.
Et on voit donc rarement passer sur le marché des tableaux aussi importants que le paysage de Los Angeles, qui pourrait donc flamber aux enchères à New York.
Diane Chenouda.
Merci beaucoup Sophie Etienne. Il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La journée mondiale du climat demain, les 5 ans de l'accord de Paris cette semaine, dossier à la une du journal de 8h tout à l'heure, où en est la France de ses objectifs. À 8h15, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. À 8h15, des questions notamment sur le ton qui est monté entre Emmanuel Macron et la Convention citoyenne pour le climat. Mais tout de suite, surpasser les colères, prendre sur soi, après ces nouvelles images de violence du week-end, la multiplication de foyers de contestation, cette crise qui interroge notre solidarité, comme notre individualisme. Dans un instant, la philosophe Cynthia Fleury, invitée du Tête à Tête Europe Matin. À tout de suite.
Europe Matin, Le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Qu'est-ce qui nous unit encore? Qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous divise? Des foyers de contestation et pourtant un besoin de solidarité, d'altruisme dans cette crise. Mon invité est philosophe, psychanalyste, Cynthia Fleury, auteur de Sigil la mer, guérir du ressentiment chez Gallimard.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Alors, on a vu ces images de violence samedi encore, le week-end précédent aussi. Dans le même temps, ces foyers de contestation multiples hein, dans le pays. À quoi est-ce qu'on assiste en ce moment, Cynthia Fleury? C'est de cette colère-là dont vous parlez, de cette amertume-là?
Alors, c'est toujours très compliqué de dire, voilà, j'ai non seulement écrit quelque chose, mais vous savez, c'est exactement ce qui se passe. Donc non, je ne dirais pas forcément ça, mais si vous voulez, ce qui se passe... Et là où la notion de ressentiment néanmoins peut nous aider, c'est que c'est profond et que ça vient de loin. Ça ne vient pas que de là, ça ne vient pas simplement de la Covid. C'est une rumination justement qui est là depuis un certain temps et qui s'est exprimée par quantité de mouvements, de violence auparavant, de résistance.
On pense aux gilets jaunes, évidemment.
On pense à
différents... Mais c'est peut-être trop court d'ailleurs.
Voilà, on pense à quantité de moments et puis des moments difficiles, des services en crise, les urgences qui criaient absolument leur déflagration d'une certaine manière. Donc cette réalité, elle est là, il y a un épuisement immense, et puis il y a une colère, et puis se greffe là-dessus, par ailleurs, un récit autour de cette colère, et en l'occurrence, une transformation. C'est là où c'est compliqué de comprendre la oui. différence entre ce qui est objectif et puis le récit que l'on va produire et on va s'installer et on va se fixer dans cette rumination, notamment victimaire.
Et c'est très important ce que vous dites, parce que ce ressentiment, cette colère, ce caractère victimaire, d'ailleurs, on se complète presque dedans, en tout cas on s'installe dedans et on rumine, on auto-alimente finalement ce ressentiment.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte hein, nécessairement au départ, parce qu'on a tous la colère, c'est une chose tout à fait saine d'une certaine manière. En revanche, à un moment donné, quand on commence à projeter sur l'extérieur une dynamique de dépréciation intégrale, c'est-à-dire que tout est pourri.
Tout est négatif. Tout est contre moi, souvent.
Tout est contre moi, c'est-à-dire qu'on commence à lire le monde uniquement comme persécution, c'est-à-dire que le monde me persécute, et petit à petit on rentre dans ce délire-là, et oui, c'est extraordinairement dangereux, parce que si on y croit, bah, c'est tout à fait normal qu'on se mette en situation de défense maximale. Et la défense maximale, c'est celle de la survie et c'est celle de la lutte à mort.
Le chemin de pensée est très, très logique. Très naturellement, on arrive à un réflexe complotiste. Quand on vous lit, c'est ce ressentiment-là qui est terreau, finalement, de ces théories du complot.
Oui, c'est un vrai, vrai archétype, c'est vrai, un vrai invariant des théories conspirationnistes, complotistes, etc. Indépendamment du fait que c'est une facilité, néanmoins, de la pensée, au sens où c'est la façon la plus facile de lire le monde. Une seule et unique grande cause, ou en tout cas la possibilité pour vous d'expliquer le monde. Et la possibilité pour vous d'expliquer le monde, c'est une toute-puissance, sauf que là, vous le faites aussi par de la stigmatisation, c'est-à-dire qu'en gros, vous expliquez le monde par le fait que, de toute façon, vous êtes l'objet de sa persécution. Et ça, on le connaît bien, et c'est vrai que vous avez un sentiment au départ ressentimiste, très très fort.
Ressentimiste.
Oui, ressentimiste.
C'est vous qui l'avez inventé, ce néologisme, ou... Non, parce que c'est la première fois que j'entends le ressentimisme.
Non, je pense...
Cela dit, j'entends bien l'idée qu'il faut en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux, une forme de spirale, on s'auto-alimente, ça vous l'expliquez. Mais comment on en sort? Comment on sort de ce schéma de pensée?
Voilà, c'est toute la difficulté. Comment on en sort? C'est vrai que c'est beaucoup plus simple lorsque l'on n'est pas dans le déni, puisqu'il arrive à un moment donné où on est tellement à l'intérieur de de cet auto-empoisonnement qu'on est en phénomène de déni. Donc il faut veiller à surtout ne pas y entrer. Je sais que c'est difficile d'entendre ça, mais c'est vrai que c'est plus par la prévention qu'on lutte contre le ressentiment. Une fois qu'on connaît, qu'on flirte avec, il y a quantité de voies de sublimation et de dépassement possible, mais encore une fois, faut-il en avoir un tout petit peu conscience et un tout petit peu le désir, parce que sinon, on est face à des sujets qui sont extraordinairement réfractaires, et résultat, ils iront nécessairement dans une dynamique hostile, soit contre eux-mêmes, mais très souvent contre autrui.
Qu'est-ce que ça nous dit, Cynthia Fleury, de notre rapport à l'autorité? Je le lisais encore une fois, le général Pierre de Villiers nous expliquait qu'on a un problème avec l'autorité en France, qu'elle est contestée, et en même temps, on a une aspiration parfois à avoir peut-être un régime plus autoritaire, je fais attention avec les mots évidemment.
Oui, c'est-à-dire que je pense que tout simplement on fait un très très grand mélange entre ce qu'on peut appeler l'autoritarisme et puis la notion d'autorité. On ne peut pas fonctionner sans autorité. L'autorité, c'est deux choses, c'est l'augmentation, c'est augere en latin, c'est le fait d'augmenter quelque chose et qui fait que, en fait, j'ai besoin d'autorité pour précisément ne pas avoir besoin de force. C'est-à-dire que ce n'est pas la force qui va me convaincre, c'est l'autorité, c'est-à-dire c'est mon consentement à cette autorité qui va faire que je fais quelque chose. Donc ça, c'est la question de la liberté. Et puis, l'autorité, c'est auctor, c'est-à-dire être auteur, c'est-à-dire à un moment donné aussi, je m'autorise, je vais devenir auteur. Et donc, cette question de l'autorité, elle est du côté de la puissance du sujet. Elle est du côté du fait de grandir d'une certaine manière. Elle n'est pas du côté de l'obéissance. Elle est du côté de l'autodiscipline. Donc, c'est des enjeux considérables et on mélange souvent l'autorité dont on a absolument besoin pour tout simplement organiser aussi nos libertés, pour les guider aussi, et puis l'autoritarisme qui, en revanche, est une dérive qu'il faut combattre. Combattre par le droit, bien sûr, mais parfois, dans des régimes qui ne sont pas ceux des démocraties, combattre autrement.
Une dernière question, Cynthia Fleury, celle de l'individu et du collectif. Vous parlez d'une forme d'immaturité démocratique, d'une société qui se regarderait le nombril, c'est moi, moi d'abord, moi, mes problèmes finalement. Peut-être, est-ce que c'est une société capricieuse que la société individualiste ou la société qui a perdu ce qui fait le commun, finalement?
Alors, je ne dis pas quand même tout à fait cela, parce que je pense malgré tout que l'état de droit, l'état social de droit, la démocratie sont les régimes les plus intéressants et les plus précieux pour précisément créer cette maturité aussi chez l'individu. Mais ce sont des territoires qui, de fait, parce qu'ils sont structurellement, et c'est encore une très bonne chose, mais ils sont structurellement, si vous voulez, une promesse d'égalité. Et donc, résultat, ils nous rendent plus fragiles sur la faille et sur la déception par rapport au fait où est-ce que cette égalité existe ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a, d'une certaine manière, une structure ressentimiste de la démocratie par rapport à un État plus autoritaire, parce qu'il y a une espérance immense. Donc c'est terrible, nous sommes victimes d'une certaine manière aussi de notre exigence. C'est un bon point, mais justement, il faut dépasser le fait d'être victime de cette exigence pour tout simplement se dire, voilà, est-ce que le ressentiment est le moteur de l'histoire au sens mouvement historique, ou est-ce qu'au contraire, le dépassement de ce ressentiment sera le moteur de l'histoire? Moi, j'essaye de parier sur un 20e siècle qui ne sera pas la réplique du 20e, qui a énormément utilisé le ressentiment comme moteur de l'histoire.
Un éloge de la responsabilité individuelle.
Un éloge de la responsabilité individuelle, un éloge de la manière dont nous pouvons demain créer des collectifs solidaires. On voit très bien, par exemple, que la crise aujourd'hui que nous traversons, si nous ne la traversons pas par une réaffirmation profonde de l'état social, nous irons littéralement dans le mur, au sens où nous pourrons mettre en danger la démocratie elle-même en élisant éventuellement un leader populiste, que sais-je, qui sera tout sauf démocrate.
Cynthia Fleury, c'est pas facile à dire à la radio. Cynthia Fleury, guérir du ressentiment chez Gallimard. Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. 7h49 à suivre l'édito politique de Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le projet de loi de lutte contre les séparatismes arrive mercredi en Conseil des ministres avant d'être examiné par l'Assemblée et ça risque d'être chaud.
Oui, après les fortes dissensions nées de la loi dite de sécurité globale, eh bien voilà un nouveau texte législatif à haut potentiel inflammable. C'est d'ailleurs le même Gérald Darmanin, un peu pompier, un peu pyromane, qui défendra une nouvelle fois ce projet sur lequel la majorité présidentielle risque bien de se diviser, suivant la même ligne de fracture que pour la loi de sécurité globale.
Pour laquelle il y avait une opposition liberté publique contre ordre public.
Oui, alors on aura cette fois les défenseurs d'une laïcité ultra rigoureuse contre les partisans d'une lecture plus libérale, plus tolérante. Les premiers, les laïcars, sont plutôt des députés de gauche, les autres viennent plutôt de la droite. La gauche du parti, en tout cas, s'organise de plus en plus. Des clubs ou des courants se créent, ils s'appellent par exemple En commun ou territoire de progrès. Bref, des appels sont lancés car la gauche du parti veut peser sur la ligne du chef de l'État.
Et la droite du parti, elle s'organise pour peser elle aussi ?
Alors la question a été posée par un député issu de la droite, hein, très proche d'Emmanuel Macron. Pas besoin, lui a-t-il été répondu. On a déjà le club de droite le plus puissant. C'est tout simplement le gouvernement. En tout cas, la majorité a beaucoup travaillé pour rapprocher les différentes lignes qui divisent les troupes d'Emmanuel Macron. Plusieurs milliers de militants ont été interrogés. Il y a eu un débat, des auditions d'experts, d'universitaires. Gérald Darmanin a également mené deux journées de consultation et il rencontrera même ce soir le bureau exécutif de La République En Marche. Bref, tout ce que recommandait la prudence a été fait pour éviter de rejouer le fiasco de la loi de sécurité globale.
Et c'est, comment dire, c'est sous contrôle ?
Alors plusieurs mesures sont déjà connues, plutôt bien acceptées, comme la réforme du financement des mosquées par des pays étrangers, ou encore la réforme du régime des cultes pour inciter les mosquées à abandonner le statut très élastique d'association pour se mettre dans le moule de la loi de 1905 sur les rapports entre l'Église et l'État. Mais malgré ça, tout peut arriver, je le redis, on est vraiment sur un sujet très inflammable. Et les marges de manœuvre du chef de l'État sont quasi nulles. On l'a bien vu avec la loi sur la sécurité.
Et le départ de feu provoqué par le fameux article 24.
Exactement. Et on en est arrivé à une situation absurde et quasi ingérable. Par exemple, si Emmanuel Macron reconnaît dans son interview à Brut vendredi qu'il existe un contrôle au faciès, eh ben les policiers menacent de faire une grève des contrôles. Et le lendemain, des centaines de casseurs rappellent avec violence que la police n'est jamais assez défendue. Avantage Gérald Darmanin, voilà. Après une séquence très dure pour lui, le ministre de l'Intérieur reprend le lead sur un nouveau projet et l'actualité lui donne raison. Il a reconquis son territoire de progrès, comme on dirait, à la gauche du parti.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui, à sa manière, conseille l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Et tiens, oh, une surprise, c'est Ségolène Royal qui est venue dire un mot à notre invité.
Oh, surprise! Je vous savais musicien, monsieur Béliard. Je vous jouais remarquablement la surprise. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un comédien qui sommeillait en vous.
Oh, je m'entraîne à mes heures perdues.
Pardon, je ne vous ai pas salué, monsieur Béitou.
Bonjour.
Non, écoutez, comme j'ai un peu de temps libre dans les 37 prochaines semaines, je me suis dit, tiens, je passe les voir.
Vous avez été très virulente hein, contre le gouvernement, madame Royal.
Oui, bah écoutez, franchement, il y a Monsieur Vaccin. Ben oui, je me suis fait Monsieur Vaccin, mais de qui se moque-t-on ? On appelle ça Monsieur Vaccin, mais quand cessera-t-on l'infantilisation des Françaises et des Françaises ? Alors attention, voilà Monsieur Vaccin qui va vous piquer les fesses. Non mais franchement, non mais bonjour au niveau Monsieur Vaccin. Il y a un, c'est comme Monsieur Propre, Monsieur Cyclopède ou Monsieur Potote. Hein ? Moi, celui je le connais, Monsieur Potote. C'était le surnom de François. Oh. Et je peux vous dire une chose, c'est que pourquoi vous regardez votre montre, Monsieur V ? Oh, on a plus beaucoup de temps. Oui.
Prenez le temps.
Du coup, je n'ai même plus le temps de dire du mal de Barbara Pompili. Hein, je rappelle que Barbara Pompili est ministre de la transition écologique et je trouve que pour une transition, hein, je trouve qu'elle reste longtemps en poste. Hein. Monsieur Hulot avait eu l'élégance de se barrer. Hein. D'ailleurs, il avait démissionné, vous en souvenez, il a démissionné, il avait annoncé ça en pleine interview. Hein, peut-être qu'elle annoncera ça, Barbara Pompili, en pleine interview de Mabrouk.
Qui sait
hein. Hein, du coup, je reste dans le coin au cas où.
Sait-on jamais. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière. Il va falloir écouter, vous l'aurez compris, en entier, l'invité politique de la matinale. Ce matin, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. On vous retrouve à 9h moins le quart, Nicolas, pour la revue de presque. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Eh bien voici que la saison décline, ça y est, nous sommes dans le froid, nous allons rester dans le froid jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures le matin entre moins 4 et plus 4, et dans la journée entre 6 et 12 degrés, 6 à Paris par exemple aujourd'hui, 9 à Toulouse et 12 à Marseille. Un petit coup d'œil sur le ciel, bon, toutes les régions qui bordent l'Atlantique seront sous la pluie, le sud-ouest sous la pluie aussi, et éventuellement le Limousin sous la pluie. Mais certains d'entre nous auront un peu de soleil, si vous êtes près de la Méditerranée notamment. La région parisienne, comme dans le Berry, l'Orléanais et la région Rhône-Alpes. Là, ce sont des brouillards, mais ensuite des éclaircies surprises ici ou là. Et s'il y en a. Puis, Champagne-Ardenne et la Corse, un temps gris, humide et brouillasseux.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible.
Le difficile équilibre pour Emmanuel Macron sur l'écologie, tenu par ses promesses aux citoyens de la Convention climat et tenu par l'accord de Paris, de la COP21. 5 ans après, la France est-elle sur la bonne trajectoire? C'est l'enquête d'Europe 1 avec en prime la visite d'une maison modèle dont la facture de chauffage est tout à fait rafraîchissante. Une île qui tient à ses pêcheurs, quoi de plus symbolique pour le Royaume-Uni dans les négociations du Brexit, sauf que le secteur ne présente qu'un millième de son économie. Nous verrons en direct depuis Bruxelles ce qui bloque vraiment les discussions. Dans ce journal, un recul qui se dessine dans la future loi contre les séparatismes. Et puis la persévérance des enquêteurs dans l'affaire Estelle Mouzin, reprise des recherches aujourd'hui autour de l'ancien château de Michel Fourniret.
L'environnement, donc 5 ans après l'accord de Paris, et alors que le ton monte entre la Convention citoyenne pour le climat et l'exécutif, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et solidaire, invitée de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Laurent Fabius en avait perdu sa voix, président de la COP21. Nous sommes alors le 12 décembre 2015. Les dirigeants de 195 pays sont venus en France et ils aboutissent au bout de 2 semaines à ce que l'on retiendra comme l'accord de Paris, une limitation du réchauffement climatique d'1,5 degré à l'horizon des années 2100.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Spécialiste environnement d'Europe 1. L'accord de Paris a dessiné cette trajectoire. Où en est la France ?
Eh bien, si on regarde la courbe, on est dans le rouge. Je vous donne un chiffre. Nos émissions de CO2 devraient théoriquement baisser chaque année d'1,5%. Or, elles ne diminuent que de 0,9%. C'est presque moitié moins que ce qu'il faudrait. En plus, les objectifs seront plus exigeants à partir de 2023. Pour rester dans les clous, il faudra réduire les émissions de gaz à effet de serre 2 fois plus vite, c'est-à-dire de plus de 3% par an. Donc faire 2 fois plus d'efforts. Ça veut dire permettre aux Français d'acheter très vite des voitures électriques, d'isoler efficacement leur logement ou encore de transporter les marchandises par train plutôt qu'en camion.
Alors Virginie, juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, on parle bien de l'accord de Paris. Et Paris, la France, ne le respecte pas, enfin pour l'instant.
Voilà, c'est... exactement. Il y a des politiques de réduction des émissions. Hein. Elles existent, mais elles ne vont pas du tout assez vite.
Alors quels sont les secteurs, Virginie, sur lesquels la France est le plus en retard?
Il y a 4 secteurs responsables de 85% des émissions. D'abord, les transports. C'est le seul secteur qui pollue plus que dans les années 90. Les véhicules des particuliers représentent la moitié de ces gaz. Il faut donc des voitures plus petites, moins lourdes, qui consomment moins. L'agriculture n'est pas non plus sur les rails, notamment à cause de l'élevage des vaches qui polluent autant que 15 millions de voitures. Et puis, autre gros morceau, l'industrie. La tendance n'est vraiment pas bonne, en particulier le secteur de la chimie. Depuis 2015, on stagne quasiment, selon le tout dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Les industriels n'arrivent plus à progresser. Le dernier secteur le plus porteur d'espoir, peut-être, les bâtiments, donc les logements, les bureaux. L'un des rares secteurs où on est un peu au-dessus de nos objectifs. Maintenant, le gros défi, c'est d'éradiquer les 5 millions d'appartements ou de maisons qui sont des passoires thermiques. C'est un cercle vertueux, hein. C'est un levier majeur pour faire baisser les émissions de CO2 et ça créerait de l'emploi.
Alors, pour comprendre comment on peut réussir à construire des logements qui consomment 5 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, vous nous emmenez en banlieue parisienne, entre Paris et Versailles, visiter ce que l'on appelle une maison passive.
Oui, alors ce jour-là, une pluie fine, glacée, il fait 7 degrés dehors à l'intérieur de cette maison moderne, façade en latte de bois, pas de chauffage, et on jette un œil sur le thermomètre.
Et là, vous avez 20 degrés 5.
Voilà, Philippe Herzberg, le propriétaire, explique que sa maison est conçue comme un thermos à café avec une paroi très isolante qui garde la chaleur. Il n'a même pas de chaudière, juste un système de ventilation par lequel l'air qui entre dans la maison à 9 degrés est réchauffé par l'air qui sort à 22 degrés.
Généralement, lorsqu'on le matin, si jamais il a fait très très froid la nuit, on va se réveiller avec 19 degrés, 18,5. S'il y a du soleil pendant la journée, eh bien on va terminer la journée à 22-23 degrés. S'il n'y a pas de soleil, on met 2-3 bûches dans l'insert. Et la maison gagne 4 degrés en quelques heures.
On va être très concret, Virginie. Tout cela, ça fait vraiment une différence sur la facture d'énergie.
Ah oui, la pointe chauffage leur coûte moins de 20 euros par mois, contre 140 euros pour la facture moyenne des Français. Donc c'est 7 fois moins, une facture 7 fois plus légère.
Oui, alors 7 fois moins, là, je comprends très bien qu'avec cette isolation extrêmement performante, je peux l'appeler la maison thermos. En écoutant la réponse ce matin, tout le monde va la vouloir, cette maison thermos où vous nous avez emmené. Merci Virginie. Votre enquête sur Europe1.fr, la COP21, 5 ans plus tard, le contrat n'est pas rempli. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sera en direct dans ce studio dans moins de 10 minutes avec Sonia Mabrouk.
Et on parlait des 150 citoyens de la Convention pour le climat. Le gouvernement doit leur présenter aujourd'hui les orientations retenues parmi les 147 propositions qu'Emmanuel Macron avait acceptées.
C'est en ce moment que ça se joue. Nous sommes au milieu de deux journées de négociations sur le Brexit.
À l'heure où on se parle, Michel Barnier, le Français qui négocie au nom de l'Union européenne, informe les 27 pays avec un point d'étape commencé il y a une demi-heure à peine.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
En direct de Bruxelles pour Europe 1. Dans cette dernière ligne droite vers l'accord de divorce économique, c'est toujours la question de la pêche et de la concurrence qui bloque.
Alors, la pêche, c'est politiquement sensible. Ça touche en Europe des communautés entières. Et puis pour les Britanniques, comme leur pays est une île, bien, il faut montrer qu'ils retrouvent sa souveraineté sur ses eaux. Mais attention, la pêche, c'est seulement 0,1% du PIB britannique. Donc, ça ne suffit pas à bloquer la négociation. Non, il y a un autre problème bien plus lourd économiquement. Après le Brexit, les Européens ont peur d'avoir un concurrent déloyal à leur porte. Exemple, imaginons que Londres subventionne son électricité. L'énergie sera moins chère pour ces entreprises, elles produiront moins cher. Ou alors imaginons que les 27 durcissent leurs règles de respect de l'environnement, désavantage pour les usines européennes. Avant de donner l'accès à leur marché, les Européens veulent donc des garanties pour que les règles du jeu restent équitables des deux côtés de la Manche, via des clauses dans le futur accord ou via des mécanismes de correction comme une taxe. Mais les Britanniques, eux, veulent garder les mains libres. Voilà, ce point est crucial car il concerne potentiellement tous les secteurs de l'économie pour les décennies à venir.
Isabelle Horry, avec nous en direct de Bruxelles.
Et on va vous retrouver, bien sûr, Isabelle, hein, s'il y a un début de fumée blanche. On va traverser la Manche et continuer à parler du Royaume-Uni.
Oui, qui se targue, grâce au Brexit justement, d'être le premier pays occidental à démarrer sa campagne de vaccination anti-Covid-19. C'est demain que ça commence. 800 000 doses du produit de Pfizer et BioNTech sont arrivées de Belgique en fin de semaine dernière.
Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
En direct de Londres pour Europe 1, le calendrier ressemble à celui de la France. Les plus vulnérables seront les premiers vaccinés.
Oui, tout d'abord, ce seront les personnels des maisons de retraite et les plus de 80 ans, puis rapidement les résidents des EHPAD. Christine a 87 ans, elle a hâte d'être une des premières appelées.
I'm all for it. Je suis à fond, parce que sinon je peux être infectée à tout moment, dans la rue, les magasins, et puis c'est plus sûr pour ma famille et mes amis, et ce sont les personnes les plus importantes dans ma vie. Et puis je pourrais peut-être retourner au pub. J'espère que tout va bien se passer et que dans 6 mois, tout sera derrière nous.
Les vaccins ont été acheminés durant le week-end dans 50 hôpitaux habilités à les recevoir, car il faut les maintenir à moins 75 degrés, un défi logistique tel que le gouvernement a dû revoir plusieurs fois sa copie, de quoi susciter des doutes chez certains, à l'image de Lorraine.
Je ne sais pas si je vais me faire vacciner. On voit des théories du complot qui disent que c'est venu trop vite, et même si on sait que c'est faux, on ne peut pas s'empêcher de douter.
20% des Britanniques ont peu ou pas confiance en ce vaccin d'après un récent sondage. Pour les rassurer, plusieurs personnalités ont promis qu'elles se feraient vacciner. Selon les médias britanniques, la reine Elisabeth II et le prince Philippe pourraient donner l'exemple.
Merci Johanna Chabas en direct sur Europe 1, notre envoyé spécial au Royaume-Uni et puis en économie. Cette annonce ce matin, la Société Générale et le Crédit du Nord, qui font partie du même groupe, vont fusionner leur réseau de détail. C'est un projet qui va passer par la fermeture de 600 agences, mais sans départ contraint.
8h09 sur Europe 1. C'est ce mercredi que la réforme contre le séparatisme, officiellement nommée projet de loi confortant les principes républicains, est présentée en Conseil des ministres.
Alors parmi les mesures prévues, la fin de l'instruction à domicile pour lutter contre les dérives communautaristes. Une mesure qui a fait débat.
Bonjour Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour à tous.
L'exécutif a fini par bouger.
Oui, après l'indignation de nombreuses associations de parents d'élèves, le ministère de l'Éducation adoucit sa position. Selon nos informations, il y aura des exceptions dans le texte présenté mercredi pour les enfants malades, mais aussi les artistes, les sportifs, les enfants itinérants et pour tous ceux qui bénéficient, je cite, d'un projet pédagogique spécifique, une notion encore floue à l'heure actuelle qui devrait concentrer les débats. Au ministère de l'Éducation nationale, on reconnaît la complexité de la mesure, mais on ne veut pas revenir sur l'idée principale. Car sur les 50 à 60 000 enfants qui suivent actuellement une instruction à domicile, 4 à 5 000 d'entre eux seraient à risque. Certains se retrouveraient en réalité dans des écoles clandestines qui vont à l'encontre des valeurs de la République. En privé, le ministre Jean-Michel Blanquer reconnaît que ces chiffres ne sont pas réellement fiables, mais il pointe tout de même ces petites filles entièrement voilées qui passeraient leur journée à réciter des sourates, fin de citation. Dans les couloirs du ministère, on assume, la loi visera très large pour lutter contre ce phénomène religieux très spécifique. À la rentrée prochaine, la moitié des élèves actuellement à domicile devraient retourner dans les écoles.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, l'affaire Estelle Mouzin et les enquêteurs qui ne renoncent pas dans leur recherche du corps de la petite fille.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h12 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est au château du Sautou que cela va se passer dans les Ardennes, cette bâtisse avec ses deux tourelles pointues, ancienne propriété de Michel Fourniret. Des fouilles reprennent à partir d'aujourd'hui pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Cette fois-ci, ce sera sans le tueur en série qui est hospitalisé.
Oui, il y a 15 jours, Michel Fourniret faisait un malaise dans sa cellule qui l'a conduit en réanimation et même si depuis sa santé s'est stabilisée, il n'est pas en état de subir un quelconque transport, contrairement à la dernière fois fin octobre où Michel Fourniret avait pu participer aux fouilles dans son ancienne propriété du Sautou, son château, son fief, dans lequel la justice a déjà retrouvé sur ses indications deux de ses victimes. Mais ni la pelleteuse, ni la participation d'un archéologue, ni les dizaines d'arbres abattus dans la propriété, pas plus que les fouilles dans la cave n'avaient permis de trouver le corps d'Estelle Mouzin. Et pourtant, la juge d'instruction y croit encore. Celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes avait fini par lui donner des indications suffisamment crédibles pour que la piste du Sautou mérite d'être menée à son terme. Et même Monique Olivier, qui elle non plus ne sera pas là cette fois-ci, avait tenté d'amadouer son ex-compagnon en l'encourageant à dire la vérité. Les fouilles vont donc reprendre tout à l'heure, sans les principaux intéressés, mais avec, notamment pour les avocats du père d'Estelle Mouzin, le sérieux espoir de découvrir la vérité.
Les informations de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre autour des arbitrages de la Convention citoyenne sur le climat. L'attente est très forte, la pression également. Invité ce matin, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
A tout de suite sur Europe 1, 8h14.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.
Bienvenue et bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Tout d'abord, des centaines de vandales, des meutiers d'anarchistes à chaque manifestation et toujours des commerçants victimes en souffrance. Selon vous, qui est complice de ce chaos ?
Ah bah écoutez, on sait que ces black blocs, ces vandales sont en dehors de la République. Ce qu'ils veulent, c'est casser. Et ce qu'ils veulent aussi, c'est empêcher des manifestants de défendre tout simplement leurs idées. Donc ces gens-là, il faut qu'on les arrête, il faut qu'ils soient sévèrement punis. Et il faut absolument ne pas non plus les confondre avec des manifestants qui, eux, ont tout à fait le droit, et même un droit à protéger, de pouvoir défendre leurs opinions dans la rue.
Il faut qu'on les arrête, qu'ils soient sévèrement punis, avez-vous dit.
Absolument.
Bon, des peines adaptées à des gens qui s'attaquent finalement à la République.
Oui, ces gens-là ne sont pas dans la République.
Alors Barbara Pompili, votre dossier, c'est une semaine cruciale qui s'ouvre avec les arbitrages autour des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Les militants écologistes appellent le président à tenir ses promesses. Est-ce qu'une grande majorité de ces propositions sera dans le projet de loi sur le climat ?
Alors oui, une grande majorité de ces propositions sera dans le projet de loi sur le climat. On y travaille d'arrache-pied. Vous savez, c'est une loi qui va changer de modèle français, qui va mettre l'écologie dans le modèle français. Et ce qu'on veut, c'est surtout que ce soit pas juste une loi d'incantation, où on se donne des grands objectifs, mais où on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Là, on a vu qu'il fallait se donner des moyens, poser des jalons et vraiment taper à la porte de la vie quotidienne pour que l'écologie rentre dans nos vies.
Mais les citoyens qui ont participé à cette convention et de nombreux militants écologistes, je cite Cyril Dion au passage, en doutent fortement. Qu'est-ce qui garantit que vous n'allez pas bien perdre vos arbitrages et avaler au passage quelques couleurs. Ça arrive.
Ah, mais vous savez, quand on veut changer la vie des gens et quand on veut aussi se mettre à la hauteur de l'enjeu, moi je vous rappelle, et il faut toujours se le rappeler, que le réchauffement climatique est là, qu'on en commence déjà à en voir les conséquences. Je vous refais pas les inondations qu'on a eues, notamment bah, par exemple dans les Alpes-Maritimes, où on a eu l'impression que c'est un territoire qui a été bombardé, les sécheresses avec les conséquences pour notre agriculture, pour nous dans notre vie quotidienne. Bref, on ne peut plus attendre, il faut agir. Et
à
pour ça...
Est-ce que vous le dites à une partie du gouvernement, on va le voir sur certains exemples concrets qui ne vous suivent pas sur des propositions de cette Convention citoyenne?
Vous savez, on a les citoyens, ils ont eu le temps de s'approprier le sujet. Ils ont eu le temps de se rendre compte de la gravité de ce que nous sommes en train de vivre et de la nécessité d'agir. Et ils ont fait des propositions qui d'ailleurs sont des propositions qui sont entre guillemets validées par le Haut Conseil pour le Climat qui dit qu'elles sont à la hauteur de notre ambition. Ben, face à ça, il y a évidemment des secteurs, des défenses sectorielles, des gens qui disent « Oh là là, mon Dieu, il faut surtout rien bouger ». Ce qu'il faut, c'est rassurer tout le monde, emmener tout le monde et montrer qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin, mais que cette réforme, il faut la faire.
Alors, on va le prouver, vous allez le prouver, tenter de le prouver ce matin. Un exemple concret, Madame la Ministre, l'écotaxe sur le transport aérien, compte tenu de la crise actuelle, ça va être abandonné.
Non, ça ne sera pas abandonné, simplement, et on en a discuté avec les citoyens, eux, ce qu'ils souhaitent à travers cette taxe, et d'ailleurs pas qu'à travers cette taxe, hein, il ne faut pas caricaturer, il y a plein d'autres mesures. C'est de faire en sorte de baisser les émissions du secteur aérien. Et pour baisser les émissions du secteur aérien, un des outils, c'était cette taxe qui permettait en fait d'avoir un signal prix qui nous dise, bah, faut peut-être mieux prendre le train. Bon, cette taxe, elle a moins d'intérêt maintenant, puisque en ce moment, malheureusement, le secteur aérien est en crise et il n'y a quasiment... Enfin, beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, quand le trafic va remonter, eh bien, le principe sera remis sur la table et ce sera inscrit dans le texte de loi.
Quand ça va aller mieux, paf, le coup de bâton sur la tête du secteur aérien.
Parce qu'à côté de ça...
Une contribution, je peux préciser, des 4,2 milliards qu'on proposait entraînerait la suppression de 120 000 à 150 000 emplois et une chute du trafic aérien de l'ordre de 20 %. C'est le moment.
Le principe, c'est toujours de regarder globalement.
Oui, pour ces
aujourd'hui,
milliers d'emplois.
On aide le secteur aérien et on aide le secteur aérien aussi à évoluer, c'est-à-dire à utiliser des nouveaux carburants, à se s'orienter vers l'avion à hydrogène, pourquoi pas même l'avion électrique, etc., etc. Mais il faut aussi qu'on baisse les émissions. Donc on essaye de trouver le meilleur équilibre et il y a beaucoup de propositions qui ont été faites par les citoyens, par exemple d'éviter aussi des vols, de prendre l'avion quand on a une alternative en train, qui est une alternative qui prend autant de temps ou moins de temps. Vous voyez, on essaye, encore une fois, d'emmener tout le monde. L'idée n'est surtout pas de faire tomber un secteur. On aura toujours besoin d'avions pour aller sur des grandes distances,
par
exemple.
C'est bien de l'entendre dire, oui. Surtout que le transport aérien, mais corrigez-moi si c'est une erreur, qui représente 1,4% des émissions de CO2 françaises, qui représente elle-même 0,9% des émissions mondiales.
Oui, mais si tout le monde fait ce genre de calcul, on ne fait plus rien. Donc, il faut bien évidemment s'attaquer à tous les secteurs qui baissent qui émettent du gaz à effet de serre. On parle des transports, mais les transports, c'est au-delà de l'avion. Le bâtiment, là, on fait aussi beaucoup d'actions, aussi en dehors de la loi Convention sur le climat. Hein. Toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat ne seront pas dans cette loi. Il n'y en aura que 40%. Le reste, c'est ailleurs, dans des règlements, dans un travail au niveau de l'Union européenne qu'on va faire. Et on va s'attaquer aussi au bâtiment, à l'agriculture, à l'industrie, et pour les aider à se convertir.
Et Barbara Pompili, aux publicités, en tous les cas, il y a une interdiction, ou plutôt une régulation de la publicité pour les produits les plus polluants. Elle est maintenue telle quelle? Interdiction?
Vous savez, les citoyens, ce qu'ils veulent aussi, c'est que dans les incitations à la consommation, on arrête d'inciter à consommer des produits qui sont des produits qui abîment notre environnement et qui polluent. Donc, quelque part, eux ont réfléchi à un système de loi Evin qui se base sur le principe d'un carbon score, c'est-à-dire qu'on va avoir, et c'est un indicateur très intéressant, quand on va acheter un produit, on va savoir si c'est un produit qui est très polluant ou moins polluant. Eh bien, eux proposent que les publicités ne puissent plus être faites sur les produits qui sont rouges, entre guillemets, en carbon score.
Mais pourquoi interdire de publicité? Pourquoi ne pas choisir d'informer le consommateur, de le traiter comme un adulte? Pourquoi vous ne faites pas des conventions avec les médias ce sujet, ce serait pas plus rationnel et pertinent?
Il faut évidemment que les consommateurs soient informés. Simplement, personne ne s'est posé la question quand on a fait la loi Evin. Enfin, si, C'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de débats. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde trouve normal qu'on interdise la publicité pour les cigarettes.
Des suppressions d'emplois, Madame la Ministre. Verdir la publicité, c'est une chose, mais mettre en danger un modèle économique, c'en est une autre.
Mais non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est que notre économie s'oriente vers l'écologie. Et donc, tous ceux qui sont en train de produire des produits très polluants, eux-mêmes, on est en train de les inciter à se verdir et à changer les choses. Donc, encore une fois, il faut regarder un processus dans son ensemble.
Oui, mais les arbitrages vont faire forcément des mécontents. Combien sur les 149 propositions seront 146, effectivement, seront dans le projet de loi climat, au final? On s'y perd dans les chiffres, parce qu'il y a eu des reculs.
On est à peu près à 40%. On va avoir un projet de loi qui est d'ores et déjà aux alentours de 80 articles. Donc, c'est un très gros projet de loi dans lequel il y a des mesures qui parfois sont séquencées en plusieurs articles. Enfin bref, donc c'est un peu difficile de vous répondre précisément. Mais moi,
nous avez dit sans filtre, promis par le président, c'est-à-dire une traduction finalement directe dans la loi.
Oui, mais une traduction directe dans la loi, ça c'est possible quand il y a une rédaction qui était déjà prête. Il y a des rédactions qui ont été reprises, d'autres qui ont été retravaillées parce qu'il fallait les purifier entre guillemets juridiquement, enfin c'était les améliorer juridiquement. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que nous soyons à la hauteur de l'enjeu. Cette hauteur de l'enjeu, il faut qu'on va être à 5 ans des accords de Paris, il faut absolument qu'on contienne les évolutions de température. Pour ça, on doit baisser au minimum de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Et bien pour cela, il faut que ce projet de loi donne des outils concrets pour la vie de tous les jours.
Moi, j'ai besoin du nucléaire, a dit le président de la République. Est-ce que vous, ministre de la Transition écologique, vous le dites aussi clairement, aussi directement ?
Quand on a 70% de notre électricité au nucléaire, clairement, on ne peut pas s'en passer. Et je suis d'accord avec le président quand il le dit, et aussi quand il dit qu'il faut baisser cette part du nucléaire pour passer à 50% en 2035, parce qu'il ne faut surtout pas dépendre d'une seule énergie, parce que dès qu'il y a un problème sur cette énergie, on se retrouve coincé. Et après, il l'a dit aussi, le président, à partir de 2050, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on continue le nucléaire ou est-ce que progressivement on s'arrête ? Eh bien, ce seront des choix que nous proposerons aux concitoyens en 2022-2023.
Mais d'ici là, Madame Pompili, le nucléaire est une énergie décarbonée non intermittente. Contrairement au renouvelable, il ne sera donc pas et on ne peut pas remplacer rapidement par du renouvelable.
Ah mais personne, y compris les plus anti-nucléaires du monde, ne peuvent vous dire qu'on peut remplacer là du jour au lendemain le nucléaire par des renouvelables. Ce serait complètement absurde
donc
de dire ça.
Donc vous admettez que moins de nucléaire aujourd'hui, c'est plus de pollution?
Ah non, pas du tout.
Bah si, puisqu'on produit une électricité qui est la plus décarbonée au monde grâce au nucléaire. Donc si on s'en passe, on laisse une place grandissante aux centrales à charbon, donc on pollue plus.
Non, c'est pas la plus décarbonée. Les énergies renouvelables sont très décarbonées et même plus décarbonées que le nucléaire. Simplement, on ne peut pas les mettre comme ça en place du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a mis en place une programmation pluriannuelle de l'énergie qui propose une baisse progressive du nucléaire et une augmentation très forte des renouvelables. Mais tout ça, ça s'étale sur plusieurs années. Et actuellement, les renouvelables qui sont en place en France permettent d'éviter d'importer de l'énergie
donc
à base de charbon, etc.
Donc vous ne dites pas que moins de nucléaire, c'est plus de pollution?
Non,
qui est la plus décarbonée grâce au nucléaire.
Non, parce que encore une fois, on a mis en place une programmation qui permet de baisser le nucléaire en augmentant les renouvelables et donc il n'y a pas plus de pollution.
Alors demain, c'est la journée mondiale pour le climat et surtout dans quelques jours, le samedi 12 décembre, c'est le 5e anniversaire de la signature de l'accord de Paris lors de la COP21. Vous en avez parlé et tout à l'heure dans le journal de 8h, on a eu une enquête à ce sujet sur la trajectoire de la France. On est dans le rouge ?
Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux encore. Et pourtant, on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à d'autres, au reste du monde qui les a plutôt augmentées. Donc on est plutôt bon élève, mais on n'y va pas assez vite, assez fort. Et c'est en ça que la loi Convention citoyenne pour le climat et le plan de relance que nous mettons en œuvre doivent vraiment mettre un coup d'accélérateur. On doit, pour dire des trucs très techniques, on doit baisser de 3% nos gaz à effet de serre tous les ans d'ici 2040. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1%. Vous voyez le pas qu'il nous faut faire. Eh bien, ce pas-là, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et donc, il faut que cette loi emmène tout le monde et ne laisse personne au bord de la route. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vulnérables qu'il faudra qu'on aide, mais on sera avec eux.
Un pas pour nous, un saut pour d'autres. La Chine, pour conclure, premier émetteur, rappelons-le, de CO2 s'engage à la neutralité carbone en 2060. Bien sûr, c'est bienvenu, mais en même temps, Madame la Ministre, la Chine continue de construire des centrales à charbon qui compromettent cet objectif.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille au niveau international. L'Union européenne, les États-Unis
bon
aussi, Biden l'a proposé pour un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est une taxe carbone aux frontières qui permettrait justement de ne pas saper tous les efforts que nous faisons aujourd'hui avec d'autres qui font du dumping écolo.
Merci Barbara Pompili d'avoir été notre invitée ce matin sur
Merci
Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zelani, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zelani.
Novembre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, ce qui rapproche un peu plus cette année du record de 2016. C'est aussi un chiffre qui rapproche la planète du premier plafond de l'accord de Paris qui fête ses 5 ans cette semaine. Ce matin sur Europe 1, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, affirme qu'une grande majorité des propositions de la Convention citoyenne sera dans le projet de loi pour le climat. Les réseaux de banques Société Générale et Crédit du Nord vont fusionner, c'est désormais officiel. Il s'agit de créer une nouvelle banque de 10 millions de clients, sachant que 600 agences vont fermer. Les syndicats s'attendent à des suppressions de postes, mais la direction assure qu'il n'y aura aucun départ contraint. La loi sur les séparatismes présentée mercredi, un projet fait figure de cas pratique, ça se passe à Montpellier. Le maire s'oppose à la vente au Maroc de la grande mosquée de la ville. Il va la préempter pour éviter l'ingérence d'un pays étranger dans son financement. Les précisions d'Hélène Terzian.
C'est au détour d'un simple document administratif que la mairie s'est rendu compte du projet. L'association à la tête de la plus grande mosquée de Montpellier veut vendre la salle de prière au Maroc. Une cession pour 1 euro symbolique que le maire, Michael Delafosse, refuse catégoriquement. Il va d'ailleurs préempter les lieux pour éviter la vente.
Si on laisse passer l'idée que ce sont les pays étrangers qui financent les lieux de culte, eh bien les religions sont sous l'influence de ces mêmes pays étrangers. Et donc, moi je le dis clairement, c'est non. Il appartient aux fidèles montpelliérains de prendre en charge leur mosquée conformément à la loi de 1905.
Les fidèles avaient justement aidé à l'époque à acheter la salle de prière à la mairie pour 1 200 000 euros. Mais aujourd'hui, l'association locale n'a plus les moyens de l'entretenir et de financer son agrandissement. Voilà pourquoi elle a sollicité le Maroc. L'Union des mosquées de France, proche du Royaume, explique que le pays n'a pas donné suite à cette demande. L'opposition de la mairie devrait probablement faire avorter le projet.
11 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, c'est bien plus que les 5 000 cas journaliers fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre prochain. Aux États-Unis, record de contamination, c'est le pays le plus endeuillé par l'épidémie. L'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, est positif au Covid, âgé de 76 ans. Il aurait été hospitalisé à Washington. Nicolas Sarkozy, à la barre, l'ancien chef de l'État, est interrogé cet après-midi sur les faits dans l'affaire des écoutes pour laquelle il est accusé de corruption et de trafic d'influence. C'est la première fois qu'un ancien président répondra physiquement à un tribunal, Gladys Laffitte. Il est impatient de s'expliquer.
Oui, d'ailleurs, dès le premier jour de l'audience, Nicolas Sarkozy a dénoncé des accusations comme étant des infamies qu'il ne reconnaît pas. Et le surlendemain, il s'est aussi brusquement levé de sa chaise pendant l'interrogatoire de Gilbert Azibert pour dire qu'il s'expliquera sur toutes les conversations devant le tribunal car il veut la vérité. Alors on l'a senti effectivement durant cette première semaine, impatient de prendre la parole, opinant souvent du chef pendant les interrogatoires de ses coprévenus. Bref, serein, concentré et combatif, nous dit son entourage. Nicolas Sarkozy devra donc expliquer les conversations qu'il a eues avec son ami et avocat Thierry Herzog, qui lui n'a pas voulu répondre au nom du secret professionnel. Des discussions où Nicolas Sarkozy s'enquiert des informations qu'aurait pu glaner Gilbert Azibert sur son pourvoi en cassation. Des discussions où l'ancien président promet aussi d'aider le haut magistrat dans l'obtention d'un poste à Monaco. Démarche qui n'aurait finalement pas été faite. Nicolas Sarkozy s'en est défendu durant l'enquête et s'en défendra sans doute encore à la barre cet après-midi.
Gladys Laffitte, et puis c'est le grand jour pour l'équipe de France de foot. Les champions du monde connaîtront leur groupe pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Tirage au sort à 18h à Zurich.
Merci beaucoup Hélène Zelani. 8h35, la météo, Laurent Cabrol dans quelques secondes. 8h37 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Nous la suivons depuis 6h, la pluie est arrivée, ça y est, la pluie, il pleut de manière abondamment sur le Finistère, il pleut beaucoup aussi sur les Pyrénées-Atlantiques et sur les Landes. Toute la façade atlantique sera concernée par la pluie, elle va gagner le Limousin et toutes les régions du Sud-Ouest. Voilà pour la pluie, attention ailleurs, les brouillards sont très nombreux et ils sont souvent givrants car il fait froid, il a fait moins 4 degrés à Abbeville, c'était la ville la plus froide ce matin, moins 1 en banlieue parisienne et 3 degrés à Bordeaux, 4 à Beaune. Bourges et 6 à Biarritz. Donc le froid, la pluie et quand même un temps relativement sec sur une bonne partie de la France. À Paris, ce sera sec, comme à Orléans, en principe, pas de pluie. À région Rhône-Alpes aussi, comme sur Lyon. Normandie, Picardie, un temps sec. Bref, c'est un temps, dans l'ensemble, automnal, désagréable, avec une poche d'éclaircie sur le bassin méditerranéen, des températures maximales entre 5 et 10 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h38, bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je voudrais vous faire écouter une voix ce matin. Il s'agit du Premier ministre de la province canadienne de Manitoba qui parle des fêtes de Noël. Manitoba, la province canadienne, c'est au milieu du Canada.
I'm the guy who's stealing Christmas to keep you safe.
Je suis le gars qui vole Noël pour vous protéger. C'est ce que vous devez faire, vous devez faire le bon choix, vous n'avez pas à m'aimer. J'espère que dans les années à venir, vous me respecterez pour avoir eu le courage de vous dire la bonne chose à faire. Et voilà la bonne chose à faire. Restez en sécurité, protégez-vous les uns les autres, aimez-vous, prenez soin de vous, il y a tant de façons de le faire, mais ne vous réunissez pas pour Noël. Voilà où en sont les Canadiens en l'occurrence. Nous, on va pouvoir se rassembler 6 maximum. C'est la recommandation du gouvernement. On va pouvoir se rassembler autour d'un sapin de Noël. Jimmy Mohamed, vous vouliez nous parler ce matin des sapins. Alors, côté médical, vous avez souhaité nous éclairer au sujet du syndrome du sapin de Noël.
Oui,
ça existe ? C'est psy ?
Non, c'est un vrai truc, le syndrome du sapin de Noël. Si je vous dis, Mathieu, nez qui coule, gorge qui gratte, conjonctivite.
Ah bah c'est le rhume des foins, c'est les allergies.
Et donc le syndrome du sapin de Noël, c'est une allergie, non pas au sapin de Noël ni à l'ambiance de Noël, mais aux moisissures que le sapin va dégager. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver chez vous, le sapin il va grandir en plein air et il va accueillir dans son écorce des minuscules champignons. Sauf qu'une fois que vous allez rentrer à la maison, eh bien il va faire chaud à l'intérieur, parfois il va y avoir une humidité favorable. Et donc ces micro-organismes vont se développer et se diffuser sur le sapin et dans l'ensemble de la pièce. C'est donc une allergie aux moisissures. Une étude avait réussi à mettre en évidence 53 types de champignons sur 27 arbres de Noël. Et puis, vous pouvez aussi être allergique aux produits qui vont servir à la conservation ou bien à la neige artificielle. Et donc, le syndrome du sapin de Noël, eh bien,
ça existe
et c'est un peu comme le rhume des foins.
Mais qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive plus de sapin ?
Non, ça c'est impensable.
Un hortensia de Noël, c'est un peu bizarre.
Alors, tout d'abord, il faut savoir que ça n'arrivera pas chez tout le monde. Ça va survenir essentiellement chez des gens qui vont avoir un terrain allergique, de l'eczéma, de l'asthme, qui vont avoir une sensibilité à faire des allergies, et notamment des allergies au pollen, puisqu'il y a ce qu'on appelle des allergies croisées. Donc si vous êtes allergique au pollen et très asthmatique, soyez prudent. Ce qu'on peut conseiller, alors dans un monde parfait, il faudrait essayer de le laver à l'extérieur le sapin, mais ça, personne ne le fera jamais.
Laver le sapin avant
pour se débarrasser de toutes les moisissures éventuelles. Sinon,
c'est que,
si jamais...
Il n'est pas venu chez moi, Jimmy. Vous savez pas que moi j'ai le sapin. C'est à l'éléphant bleu qu'il faut que je l'emmène, mon sapin, pour le laver.
Ça, c'est effectivement un autre type de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez malgré tout ces symptômes, que vous n'avez pas pu aller à l'éléphant bleu pour nettoyer votre sapin, je vous conseille de prendre des antihistaminiques. Vous savez, les anti-allergiques. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le docteur, hein. Allez à la pharmacie. Il en existe sans ordonnance. Ça marche tout aussi bien. L'idéal aussi d'aérer au maximum votre pièce pour renouveler l'air et en période de Covid, c'est pas plus mal. Et puis, il faudrait normalement garder son sapin Noël simplement 7 jours, car au-delà, les moisissures vont pulluler, mais même si je sais que c'est compliqué, alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre éventuellement, vous savez, les sapins artificiels. Je ne sais pas si ça reste un vrai sapin, ça c'est un autre débat. Ou encore des sapins alternatifs, vous savez, en bois, avec des lumières ou en livre. Mais ça, encore une fois, je ne sais pas si ça rentre dans l'esprit de Noël.
Oui, c'est encore un autre débat. Vous avez raison, on ouvre encore un autre débat. Cela dit, entre le sapin naturel et le sapin artificiel, il y a un vrai débat écolo. C'est-à-dire que si vous gardez le sapin en plastique plus de 10 ans, je crois que c'est plus écologique. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, c'est autre chose. Mais alors, le rhume des foins, le rhume des sapins, je ne le connaissais pas. Merci Jimmy Mohamed, il est 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
Devinez quoi, c'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Bonjour Mathieu Béliard.
Hey, bonjour, c'est Mathieu Béliard, vous l'avez dit, regarde le monde changer. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, regarde le monde pas trop changer. Il y a eu du Covid, il y a la défaite de l'équipe de France, c'est un peu la même actu, on va pas se mentir, c'est regarde le monde pas changer. Oui, l'info du jour, ce sont les vaccins et Alain Fischer, le monsieur vaccin, réfléchit à la manière de restaurer la confiance des Français envers les vaccins. En même temps, c'est vrai que c'est compliqué. D'un côté, on a des grands scientifiques, des labos de pointe et des organismes de contrôle qui valident. Et de l'autre côté, on a et ça pèse lourd. Juliette Binoche qui dit « c'est dangereux ». On ne sait plus qui croire, normal, on est paumé. L'autre info du jour, c'est cette super défaite du 15 de France face à l'Angleterre. Une défaite qui, Virginie Fulpin, notre chroniqueuse, l'a dit ce matin, chroniqueuse sport, une défaite qui fait du bien. On perd, mais qu'est-ce qu'on a aimé ça. Faudra conseiller peut-être aux joueurs du 15 de France de se mettre au tennis, alors ils vont adorer le tennis. On a manqué un peu d'agressivité. Il suffirait de mettre un maillot bleu aux casseurs de ce week-end qui ont plaqué des dizaines de CRS. Vivement, une équipe de France composée de All Black Blocks.
Ça, oh, on peut gagner. Oui, voilà. D'accord.
Allez, un mot. Merci Julie. un mot, très vite. C'est la sortie de Chambre 2806. Chambre 2806 sur Netflix, le documentaire sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Ouais. Oui, DSK. Vu que c'est sur Netflix, ça aurait pu s'appeler La Cata del Hotel. Ou encore Stranger Strings. Faut connaître la série Stranger Strings, sinon ouais. Oui, on n'a pas la vanne.
Faut connaître les strings aussi, ouais.
Surtout si je la prononce mal.
Bon allez, on refait pas, hein, c'est bon. Alain Fischer a donc été nommé Monsieur Vaccin, mais sa grande prudence vis-à-vis des vaccins a surpris. Ségolène Royal a même parlé de catastrophe. On va en parler avec le Premier ministre Jean Castex.
Bonjour, mon papy et mon mamie qui nous écoute, c'est Jean Castex, monsieur déconfinement. Effectivement, les Français ont un nouveau monsieur vaccin, n'en déplaise à madame Cascouille, hein? Vous aurez reconnu madame Royal.
Oh, bah elle sera ravie. Bon, revenons au sujet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on prend les gens pour des imbéciles avec ces histoires de monsieur vaccin, monsieur déconfinement?
Mais non, il est super monsieur vaccin. Et il nous a préparé un calendrier des vaccinations avec monsieur calendrier. Et d'ailleurs, il est avec moi, monsieur Vassin. On vous écoute, monsieur Vassin.
Ah, bah c'est à vous alors, Alain Fischer.
Allez-y. Alors, donc, les personnes prioritaires pourront se faire vacciner à partir de janvier. Enfin, s'ils le veulent, bien sûr, parce qu'il faut être prudent hein, avec ces vaccins qu'on ne connaît pas.
Non,
ne dites pas ça, monsieur Vassin. On va croire que c'est dangereux, les vaccins.
Ah, mais ça peut être dangereux. Hein. Les labos ne communiquent rien. Hein. Ils disent juste qu'il est fiable à 95%. Puis après, derrière, démerde-toi. Mais les effets secondaires...
Non. D'accord, il y a des petits effets secondaires. Mais au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver
La mort. Le problème, c'est que les vieux dans les EHPAD, ils vont mourir quand même. Hein, et on va dire que c'est de la faute au vaccin. Puis ça va finir qu'on va dire que c'est de ma faute, quoi. Donc,
Non, bon, mais écoute, ferme ta gueule, monsieur Vaccin. Voilà.
Là, mais dites-moi, il fait peur à tout le monde, votre monsieur Vaccin, là.
Bon, ben voilà, merci à monsieur Vassin. Il nous a bien rassurés. Il nous a bien filé la patate. On aurait pu d'ailleurs l'appeler monsieur Patate.
Allez, on vous laisse, Jean Castex. Ce samedi, François Bayrou a été réélu à la tête du Modem. Bonjour, monsieur Bayrou. Madame Julie. Oui.
Non, mais. Petite entreprise connaît pas la crise. Vous avez vu ça, madame Julie, monsieur Billard, monsieur Cabrol, monsieur Mohamed, bien la chronique sur les sapins. C'était utile. Si de la paix avait son sapin à l'extérieur, de ne le garder que 8 jours, d'aller voir son médecin pour bien passer pour un con, pour dire je suis allergique au sapin, donnez-moi un traitement.
On a que ça à foutre. Non,
excusez-moi. On voit qu'il commence à être à court de chronique, il patine. Dès qu'il sort de ce domaine du Covid, il flotte. Je le croyais plus tout terrain que ça, Jimmy Mohamed. Alors,
demain,
je pense qu'il nous fait une chronique sur les allergies aux guirlandes. Alors, revenons à nos moutons.
Ouais.
Alors, vous savez, c'est un succès triomphal, cette élection de moi-même au Modem. Vous savez, une victoire, ça n'est pas si facile à obtenir. Et
je sens à travers votre silence que mon sujet sur les sapins est plus drôle que mon élection. En tout cas, ce type de victoire, des grands hommes ne l'ont jamais connu. Je pense à Lionel Jospin, Édouard Balladur, Jo Wilfried Tsonga.
Oui, mais enfin, c'est une victoire à 96%.
Oui, hein? 96%. J'ai réuni totalité des votes du bureau politique du MoDem, composé de Marielle de Cernès, de moi et de mon chien Snoopy. 96%. Vous voyez, quand un dirigeant fait 96%, comme d'ailleurs Vladimir Poutine ou Omar Bongo, c'est quand même un signe. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, et les gens l'aiment beaucoup.
Eh bien, vous avez tout compris. Alors, vous avez rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing lors du congrès et salué le fait qu'il a, je vous cite, « gagné une élection seul contre tous ».
Oui, il a gagné une élection seul contre tous. Moi, j'ai gagné une élection seul contre personne. C'est déjà pas facile. Je vais être obligé d'être honnête. Même sans adversaire, j'ai pas fait 100%. Bon. Je me demande encore comment je me suis débrouillé, mais lui, seul contre tous, c'est encore plus fort.
Vous l'admiriez depuis longtemps, hein, Valéry Giscard
d'Estaing. Ah oui, 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 c'est un grand homme. Quand j'étais jeune, vous savez, je vais raconter une anecdote.
Allez-y, mais on n'a pas la matinée non plus. Hein.
vous savez, quand on parle des allergies aux sapins à 8h44, c'est qu'il n'y a pas une grosse actu non plus. Alors, vous savez... Il y avait, je me permets de vous narrer cette anecdote parce que vous allez voir, c'est très très drôle. C'est comme ça qu'on se plante quand on annonce que c'est très drôle avant. Il y avait un concert des... comment s'appelle-t-il ?
Les
Rolling Stones. Les Rolling Stones. Ah, on s'est envoyé en Monsieur Béliard, ça y est, ça m'est revenu. Il y avait un concert des Rolling Stones à l'Olympia. J'avais deux places offertes par un ami. Je les ai échangées contre une place au congrès fondateur à l'époque de l'UDF.
Oula.
Ah, je peux vous dire que j'étais excité. J'avais un magnifique t-shirt où il était inscrit Giscard à la barre.
Ah ouais, le slogan de l'époque. Ouais, ouais.
Oui, j'avais jeté ma cravate, je me souviens, sur Jean Le Canuet qui faisait la première partie.
Et quel programme.
Quand Giscard est monté sur scène, je dois vous avouer que j'ai fait un petit malaise, une syncope en trépignant. Vous savez, comme les Josiane ou les Sylvie qu'on voit s'évanouir dans les reportages sur Claude François. Voilà, mais Valéry Giscard d'Estaing, c'était mon idole. Donc je dis au revoir, président.
Eh bien, vous nous avez bouleversé, monsieur Bayrou, vraiment. Allez, au Royaume-Uni, la campagne de vaccination commence demain. La reine d'Angleterre devrait d'ailleurs être vaccinée dans les prochaines semaines. Bonjour Stéphane Bern.
Oh oui, bonjour mon cher Mathieu. C'est une bonne chose pour convaincre ceux qui croient à la théorie du complot. Si les vaccins étaient dangereux, le premier réflexe des Anglais, vous y pensez bien, ce serait pas de piquer la reine comme un vulgaire chihuahua le sémique.
Bon, Stéphane. Alors, soyons sérieux. Selon vous, comment ça va se passer?
Oh, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, il faut dire la vérité. Vacciner la reine, c'est comme restaurer la Joconde. Déjà, elles ont plus ou moins le même âge. Oui. Et puis... toutes les deux sont des trésors desséchés qu'on doit manipuler avec un extrême soin.
Mais c'est quand même un geste fort de la part de la reine. Hein. À 94 ans, comment savoir si ce vaccin ne sera pas trop dur pour elle?
Oh bah écoutez, vous savez, elle est pas conne la bébête, la Elisabeth. Elle a d'abord fait vacciner son mari Philippe, qui a 99 ans. C'est un véritable honneur pour lui, ça fait 50 ans qu'il ne sert plus à rien, et là on va le sortir du placard. On revient, si vous voulez, c'est comme au temps des goûteurs, vous savez. Sauf qu'au lieu de protéger la reine en goûtant son roast beef, il va la protéger en se prenant une aiguille dans le bras, ou ailleurs, quel beau geste.
Oh magnifique, merci Stéphane. Allez, on va dire un mot de ce documentaire événement qui sort sur Netflix et qui montre tout l'affaire DSK. Chambre 2806, c'est le titre. Dominique Strauss-Kahn, bonjour.
Oui, bonjour. Donc, comme cela, ils se mettent au film porno sur Netflix.
Bah non, pourquoi?
Non, parce que vous avez dit que le film montre tout de l'affaire DSK. Bah, si c'est pas classique, c'est qu'il ne montre pas tout. Bon. Rassurez, c'est surtout les jeunes qui regardent Netflix. Donc, mes enfants, et à vue de nez, j'en ai une petite trentaine un peu partout dans le monde. mes enfants, je veux qu'ils gardent une belle image de leur papa.
C'est ça. En tout cas, ce documentaire vous dérange, hein, puisque deux jours après l'annonce de sa sortie, vous avez déclaré qu'un contre-documentaire était en préparation et que vous alliez donner votre version des faits.
Hmm oui. Mmh. Oui, car maintenant, ça fait presque 10 ans que je suis enfin prêt à vous dire la vérité, rien que la vérité.
Mmh. Il serait temps.
C'est la fille de Diallo. La fille de Diallo qui m'a violé.
Ah bon?
Elle a mis du GHB dans mon bain et du Viagra dans mes pancakes. Et quand je suis sorti de la salle de bain, mon érection, en disant le mot, elle s'est jetée sur moi.
Non, non, arrêtez, s'il
alors écoutez, plaît. Je n'ai rien dit jusque-là, car j'avais honte qu'une femme soit plus forte que moi. En même temps, elle a le physique de Sébastien Chabal, Nafissatou, c'est la vérité. Quant au partouze de chez Dodo la Saumure, ça fait presque 15 ans, et je suis enfin prêt à vous dire la vérité, rien que la vérité. C'est une agression. Réellement en bande organisée et à poil. 20 personnes toutes nues sont entrées par effraction au Carlton de Lille, sont jetées sur moi.
C'est ça, bon, allez.
Sans transition. Merci beaucoup Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque. À écouter, réécouter sur Europe1.fr, bien sûr. 8h56, Philippe Vandel est là, Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, dans notre info média du jour, on va parler de la place de la nuance dans les médias. Médias qui lui préfèrent souvent l'affrontement, parfois brutal. On sera avec Cédric Angealbert, c'est l'un des rédacteurs-chefs adjoints de Philosophie Magazine qui fait sa une sur la nuance. Au sommaire également, un doc exceptionnel sur deux des couples les plus observés d'Hollywood et même du monde dans les années 60. Yves Montand, Simone Signoret et Marilyn Monroe, Arthur Miller. Au menu glamour, adultère et politique, on sera avec le narrateur Gérard Miller et le réalisateur Sylvain Bergère. Et puis l'animateur, essayiste et même polémiste, on peut le dire, Eric Nolot, pour son premier roman. Ça s'appelle Ruse, l'histoire, dit-il, d'une promenade avec l'amour et la mort.
C'est son premier roman.
Exactement. Eric Nolot. Il n'a jamais voulu. On va lui demander pourquoi il a attendu autant de temps.
Ah oui, je suis surpris. Culture Média.
Ouais. Culture Média, c'est juste après ça.
Le premier roman d'Éric Nolot tout à l'heure. Philippe Vandel, de 9h à 11h sur Europe 1. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.